merci de votre présence. Donc, nous allons démarrer l'entretien avec Hervé Leblanc. Donc, Hervé Leblanc est illustrateur. Il n'est peut-être pas que illustrateur. D'ailleurs, on verra si il trouve d'autres dénominations au métier qu'il fait, parce que quelquefois on dit graphiste. Ou... Donc là, il va nous expliquer un petit peu les nuances dans les terminologies. Et donc Hervé Leblanc est l'illustrateur qui a réalisé l'affiche des Imaginales cette année et qui également a une exposition donc de ses œuvres à la Maison du Bailli. Et nous allons un petit peu découvrir qui est Hervé Leblanc. Alors Hervé Leblanc, déjà, quel est votre parcours, d'où vous venez et comment est-ce que vous êtes arrivé au métier que vous faites aujourd'hui ?
Le parcours, en fait, il s'impose à moi-même sans que je me pose trop de questions. Enfin, très vite, au niveau de l'adolescence, je sens que j'ai quelque chose à faire avec le dessin. Enfin, c'est ce qui m'appelle en un temps. Naturellement, je prends une direction vers les écoles d'art. Donc, je vais faire les beaux-arts. Et puis, derrière se cache, commence à se cacher des ambitions de réaliser des livres, notamment de la bande dessinée. Petit à petit, on tient le crayon, une commande de ceci, une commande de cela. Alors, au début, c'est très gentil, on se fait la pièce, quoi. Hein, c'est... Et puis, donc à l'époque, parce que, je sais pas si ça se voit, mais déjà du temps qui s'est passé. À l'époque, donc on est en 88 quand je sors de l'école des Beaux-Arts. Ce qui s'offre à nous, c'est la publicité et pas vraiment grand-chose d'autre. Alors évidemment, il y a un milieu qui existe en bande dessinée, en illustration, mais enfin, on n'est pas dans la même époque. Donc j'essaye un petit peu de bande dessinée, de publicité, excusez-moi. Et puis, très vite, je m'aperçois que c'est pas tellement mon créneau. Alors, je commence à chercher des terrains qui seraient plus appropriés à ce que je souhaite faire. Et donc, je m'oriente vers le dessin animé. Et en fait, c'est là où tout commence à se déclencher, puisque dans ma quête du dessin animé, je suis aiguillé vers le studio Amblimation, donc un studio d'animation qui avait été ouvert par Steven Spielberg à l'époque. Et donc j'ai eu la chance de rentrer là et d'apprendre... encore plus vis-à-vis de l'image, apprendre entièrement même l'animation, parce que j'avais absolument aucune formation à ce niveau-là. Donc quand on rentre dans un lieu comme celui-ci, il faut savoir qu'il y a environ 250 personnes, si ce n'est pas plus, qui tiennent à l'époque tous le crayon, qui travaillent tous sur du papier, et des décorateurs, et des animateurs, et des directeurs artistiques, et tout ça. Donc on baigne dans une espèce de temple du dessin. En un an, il y a un apprentissage, tout au moins, il y a de très fortes envies qui apparaissent. Et puis, je reviens en France et j'essaye de faire mon chemin dans ce milieu de l'animation, où j'apprends à gérer l'image, en fait. Parce que, dans l'animation, il faut savoir qu'on a en moyenne un plan de 3 secondes, plus ou moins, à l'écran. Et il n'est pas question de partir dans des considérations qui ne seront absolument pas vues par le public. Surtout que c'est un public jeune, souvent. Donc il faut faire une image parlante, très vite, parce qu'elles ne font que de se succéder. Et donc, dans ce processus, j'apprends beaucoup à gérer l'image, quoi. Chemin faisant, donc j'ai toujours continué à travailler dans l'animation, et qui a très longtemps été un moyen, et qui l'est encore, un moyen pour moi de gagner ma vie. Et au bout d'un certain temps, quand même, est resté sur le bas-côté des envies plus personnelles, type illustration, bande dessinée, que j'ai décidé de... Alors, dans un premier temps, que j'ai complètement réalisé sur un plan personnel, c'est ce que vous pouvez voir actuellement à la Maison du Bailli, c'est-à-dire que je me suis toujours octroyé ce moment entre moi et moi pour peindre, pour générer les images dont j'avais envie. mais sans avoir de connexion professionnelle par rapport à ces images-là. La chose s'est faite plutôt sur le tard, c'est-à-dire il y a environ 4-5 ans, un peu par pur hasard, j'ai eu un contact avec un éditeur, donc Folio SF, qui m'a proposé de faire une couverture. Et chose que j'ai faite, visiblement, donc la couverture a eu son effet, et puis donc une couverture, on en amène une autre, et puis donc voilà, maintenant c'est devenu presque une gymnastique. Je me fais plusieurs couvertures dans l'année, et puis donc cette couverture-là forcément est vue et repérée par des professionnels qui eux-mêmes sont intéressés par le travail, et donc me contactent pour réaliser une affiche pour le festival. En fait, voilà, Tout n'est qu'un processus de fil en aiguille. Une chose en amène une autre, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, finalement, je suis quelqu'un qui peut aussi bien travailler dans le cinéma d'animation, faire une exposition en galerie, faire des illustrations pour des éditeurs et en train de couver actuellement une bande dessinée qui verra le jour. Alors ça, je ne sais pas encore. Mais on va espérer, on va être optimiste, et on va dire que d'ici là, 2-3 ans, ça devrait voir le jour. Donc voilà, je suis un touche-à-tout.
Alors justement, en parlant de touche-à-tout, quelles sont les techniques que vous manipulez ? Parce que il faut parler un petit peu technique quand on parle d'illustration.
Absolument,
bien
oui.
Souvent, le public ne se rend pas compte de la manière dont on peut obtenir ce qu'ils vont appeler, eux, un dessin ou une image. Donc, quelles sont les différentes techniques que vous manipulez et en quoi est-ce qu'elles sont spécifiques ?
Alors, la technique qui s'impose, de toute manière, la technique de base, c'est le crayon de papier sur une feuille blanche. Alors, évidemment, on peut aussi la contourner et trouver autre chose, mais c'est quand même la technique de base, c'est le premier jet, c'est là où l'idée prend forme. C'est ce que je disais tout à l'heure à une classe de jeunes gens qui étaient venus. Le dessin, avant d'être un joli coup de crayon ou des jolies formes ou des jolies couleurs, c'est avant toute chose une idée. S'il n'y a pas une idée pour pousser le crayon, quoi que ce soit qui arrive sur la feuille va mourir, c'est creux. Donc il y a un travail sur l'idée. Donc c'est ça le premier support, hein. On n'en parle pas parce qu'il n'est pas physique, mais c'est quand même le point de départ. Donc ensuite, la feuille de papier, le crayon, et puis bon, alors après, il y a un choix qui se fait. Ça peut. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup d'ordinateurs, c'est-à-dire que je scanne mon croquis, et encore, mon croquis, je peux maintenant, avec les techniques qui sont...
actuelles. Il y a des tablettes graphiques, par exemple.
La tablette graphique où le croquis peut tomber directement sur l'ordinateur. Alors bon, ça c'est selon l'artiste, selon plein de choses en fait. Moi j'utilise encore beaucoup le crayon et le papier, mais je dois avouer que dernièrement, de plus en plus, je suis sur l'ordinateur du premier au dernier jet. Hein. Donc ça c'est pour l'aspect ordinateur. Maintenant il y a les aspects plus traditionnels, donc crayon de papier... photocopieuse, on agrandit, on réduit, on bidouille, hein, il n'y a pas d'autre mot, c'est du bidouillage, c'est du bricolage, je veux une tête plus grosse, une tête plus petite, un pistolet plus gros, un animal plus petit, enfin, j'en veux deux, j'en veux trois, je change, c'est du bricolage. Et puis, une fois qu'on a mis en place donc, la composition, hein, littéralement, donc là, on va finaliser. Alors là, il y a une nouvelle phase qui est l'aspect technique final. Donc ça peut être une aquarelle, ça peut être une peinture acrylique, ça peut être des techniques, ça manque pas, il y a de l'huile, ou encore une fois de plus l'ordinateur. Donc selon les choix, après, il y a une technique adaptée. Donc aquarelle, c'est de l'eau, on ne prend pas de risque. Acrylique, bon, on ne prend pas vraiment de risque non plus, que c'est de l'eau. L'huile, alors là on prend un peu plus de risque parce qu'il y a des règles à respecter et puis c'est un média qui n'est pas forcément évident à utiliser, surtout les premières fois parce que a tendance à se dérober sous le pinceau, donc là il y a un réel apprentissage. Et puis donc la technique ordinateur, enfin pour celle que j'utilise, parce qu'il y en a des tas d'autres après, hein. Donc là en fait qui est qui est ni plus ni moins une superposition de couches. Hein. Il faut savoir que sous un logiciel comme Photoshop, on peut mettre une infinité de couches. Donc il n'est pas rare que je me trouve avec des fichiers qui ont plus de 100 couches. Hein. Parce qu'il y a une couche pour l'ombre, il y a une couche pour telle couleur, il y a une couche pour un nez, il y a une couche pour un chapeau. Donc c'est le grand avantage de l'informatique, c'est que la retouche est infinie et on peut moduler l'œuvre, on peut la tordre, on peut déplacer, on peut tout faire en fait. Hein, tout est permis. Voilà. Donc en gros, voilà, on va dire que crayon de papier, et puis après aquarelle, acrylique, huile ou ordinateur, puisque c'est quand même très actuel hein, maintenant, hein, très, très utilisé en studio, parce que ben, y a pas de temps de séchage. Voilà.
Oui, parce que j'ai pu me rendre compte, notamment lorsqu'on voit les illustrateurs faire les fresques, etc., etc., qu'il y a effectivement. Alors, quand on est dans de l'huile, là, c'est encore pire.
Ah, c'est pire.
Les
oui.
temps de séchage sont très longs, et donc si on veut après manipuler, poser d'autres couleurs à côté, etc., etc., automatiquement, on va obtenir un temps très long pour finaliser une œuvre. Je voulais venir au travail de l'illustrateur. Donc, lorsque l'illustrateur va créer sa propre œuvre. Donc, il a envie de créer pour lui une toile. On a une certaine façon, finalement, d'exprimer sa créativité. Mais lorsque l'illustrateur doit travailler sur une couverture,
oui.
Comment ça se passe? Parce que là, on est dans un cadre contraint.
Alors, on est évidemment dans un cadre contraint. Mais déjà, on est sur le rail. Parce que si on vient vous demander à vous, c'est que déjà, vous avez les ingrédients pour répondre à la demande. Il est évident que je ne vais pas aller demander à quelqu'un qui fait toujours du polar d'illustrer un conte de fées. Donc déjà, on est dans un créneau qui correspond à la demande. Donc on va dire que la moitié du chemin est faite. Après, évidemment, là, il y a les contraintes, on va essayer d'y répondre. Mais toujours, il y a une espèce de compromis, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous fonctionnez d'une certaine manière. Donc si on me demande une couverture comme celle-ci, donc je ne sais pas si on peut la montrer, on peut s'apercevoir qu'on est dans quelque chose qui est assez traditionnel dans l'imagerie. On est dans de la vieille pierre, de la vieille maison, dans une atmosphère même particulière. Donc tout ça existe déjà dans mon œuvre. Je ne fais pas une grosse concession. Simplement, j'adapte ma personne à la demande.
Parce que comment ça se passe, puisqu'on vous dit vous allez illustrer tel livre. Est-ce que vous avez un synopsis? Est-ce que vous lisez l'ouvrage? Est-ce que c'est l'éditeur qui vous explique? J'attends plutôt ci, j'attends plutôt là. Comment est-ce qu'on fait? Voilà, on est illustrateur et on vous dit voilà, illustre Gagner la guerre de Jaworski.
Alors, la plupart du temps, on reçoit donc un petit brief. En trois lignes, on nous dit un peu de quoi traite l'histoire. L'éditeur aussi émet une idée lui-même de son côté. Il dit « je verrai bien ça ». Mais il n'y a aucune contrainte. C'est-à-dire que si moi, en tant qu'illustrateur, je vois autre chose, je fais autre chose. C'est-à-dire, pour l'instant, enfin tout au moins avec Folio SF, il y a eu un grand respect mutuel. C'est-à-dire que moi, j'essaye de leur donner ce qu'ils attendent, hein, de les servir. Et eux, de leur côté, me laissent une très très grande liberté. C'est-à-dire, si je vois quelque chose de complètement différent, je peux proposer. Et ils sont très ouverts par rapport à ça. Maintenant, en cours de processus, donc je fais un petit, ce qu'on appelle un rough, une ébauche, quoi. Juste pour poser un peu le concept, l'idée. Alors c'est très grossier, hein, en termes de couleurs et de traits, on va dire que vraiment c'est de l'ordre du... C'est des tâches ou juste de la composition. On devine des choses plus qu'on ne les voit. Mais bon, dans l'œil de quelqu'un qui a l'habitude, il peut voir si ça va bien partir ou non, quoi. Donc déjà là, soit bon, bah oui, ça va, c'est bon, vous pouvez y aller. Et puis donc c'est parti. Ou alors, des fois, il y a une mesure qui est donnée. Hein, là, on trouve que c'est trop ceci, pas assez cela. Ou ça peut arriver, on veut quelque chose de complètement différent. Mais enfin, la plupart du temps, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'il y a une ébauche qui tombe, elle est approuvée. Et ce qui met en confiance l'artiste, de toute manière, ce qui prouve qu'il est sur la bonne voie. Et donc, il se lance et donne donc un travail beaucoup plus abouti par la suite, quoi.
Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une illustration refusée pour un livre ? Parce que je connais des cas d'illustrateurs qui finalement ont travaillé et au final on a dit non, ça va pas du tout aller, ça correspond pas à ce qu'on attendait.
D'où l'intérêt du ref, c'est justement, c'est qu'on peut déjà parler sur Internet. Bon, moi ça ne m'est jamais arrivé, mais je sais que ça peut m'arriver et je vais pas m'en offusquer pour autant parce que simplement il y a quelque chose qui est mal passé dans la communication ou simplement pour l'anecdote on peut dire que l'affiche d'Épinal, j'ai fait une première proposition que je savais ayant peu de chance d'aboutir, mais pour moi il y avait une idée qui me plaisait beaucoup. Je me dis je le tente, je veux rien imposer, je le montre, si en face il y a un écho, on va pousser la chose et on va la faire vivre. Puis si maintenant ça passe pas, ça passe pas. On se formalise pas, quoi. Et donc c'est pas passé parce que l'image était belle, en effet, tout, mais répondait pas à ce qu'on attendait d'une affiche des Imaginales d'Épinal. Enfin, pas exactement. Donc moi je suis reparti sur quelques jours de réflexion. Donc l'idée, j'y tiens. Il y a une grande réflexion souvent avant le dessin. Et puis d'un seul coup, il y a une piste. Alors je la pousse, j'apporte des choses. En fait, j'ai beaucoup de questions. Et bizarrement, il arrive un moment où ça y est, il y a peut-être le petit ingrédient qui manquait qui fait que d'un seul coup, ça y est, ça prend. L'idée prend. Et une fois que l'idée, elle est prise, ça y est, elle est là, on sait sur quoi on peut s'appuyer pour travailler. On a besoin d'appui pour travailler. Et donc après, c'est presque un travail technique par la suite. Il me faut tel ingrédient. Le château, je vais regarder les châteaux d'Épinal, les photos. J'analyse, je vois sous quel angle je peux le poser. Chaque élément va être mis remis en question et trouver sa place.
Oui, parce que les contraintes, donc il y avait quand même une charte, puisqu'il y a une charte pour l'affiche tous les ans. Donc il y avait le château qui devait figurer.
Et il y a le format, c'est-à-dire on est dans un format 4 tiers, c'est-à-dire qu'il faut que le visuel tout entier tienne dans un format de 3 sur 4.
Oui.
Il y a le château. Il y a le sentiment qu'on éprouve, je crois que c'est surtout ça la grande contrainte, c'est-à-dire que quand on regarde cette affiche, il ne faut pas qu'on ait envie de fuir.
Oui.
Et il faut surtout plutôt qu'on ait envie de venir, que ce soit accueillant, que les gens... Parce que la difficulté de l'imaginaire... Donc ça, c'est un point de vue, évidemment, quand on a une affiche là qui se met à vous éclairer avec son petit soleil au milieu, c'est fait. Mais quand on se trouve devant la page blanche, on a tendance, quand c'est de l'imaginaire, à partir dans du clair-obscur. Souvent, l'imaginaire a un aspect sombre. Et voilà, c'est l'erreur à éviter sur une affiche comme celle-ci. On ne peut pas jouer de clair-obscur, on ne peut pas mettre du sombre dans la rue comme ça et dire aux gens « venez ». Donc il faut être très positif tout en étant fantastique.
Oui, parce que l'autre contrainte, effectivement, c'est que comme c'est un salon des littératures de l'imaginaire, il faut forcément évoquer l'imaginaire et donc être dans un registre effectivement très fantastique.
Voilà. Donc c'est une suite d'ingrédients. Pour parler brutalement, on a cet animal. Alors cette première lecture, évidemment, c'est on a cet animal qui tout de suite nous bluffe. On croit que c'est un rhinocéros, et en fait non. Très vite, le regard il va voyager un peu plus loin et on s'aperçoit qu'il s'agit pas de rhinocéros, mais d'animaux imaginaires. Donc ça y est, la touche imagination imaginaire est là. Après, il y a la nature du paysage qui est imaginaire, c'est-à-dire avoir une statue colossale, quoique aujourd'hui on commence à en avoir une paire à travers le monde, des comme ça, mais c'est encore du domaine de l'imaginaire. Donc c'est vraiment de l'ingrédient qui nous dit qu'on n'est pas dans un monde réel. On a une lumière qui est imaginaire, c'est-à-dire on a un ciel jaune, un soleil avec une lumière légèrement rosâtre. On a une suite d'ingrédients qui sont hors réalité. Une palette de couleurs qui est hors réalité. Enfin, il y a tout qui est hors réalité, sauf les individus qui sont, eux, humains, apparemment.
Oui, puis alors on a ce personnage avec des vêtements comme ça, un petit peu très très fantasy.
Très hein, fantasy qui, et très bonne ambiance, voire bon enfant.
Oui.
On se sent en sécurité. Il y a pas de malaise quoi.
Oui.
Y a...
En plus, le personnage avec son corps annonce donc la notion de voilà, on annonce le festival.
Voilà, donc il y a un regard aussi tourné vers le spectateur, un regard qui est plutôt quand même flatteur puisque c'est quand même une jolie fille. Donc maintenant, son regard, il est intriguant malgré tout. Elle nous regarde, mais il se passe quelque chose dans sa tête, on sait pas trop quoi. On peut aussi parler du regard du rhinocéros qui lui est très placide.
Oui,
ouais. Donc y a, une fois de plus, il n'y a pas de malaise. Hein. On fait relativement confiance à l'animal. Il ne va pas nous enfiler sa corne dans le ventre ou je ne sais quoi.
Et en même temps, ça fait penser un peu à la corne d'abondance ou à,
oui,
à ce
alors,
film
ah,
là
voilà,
où il y avait une corne qu'on arrachait à un personnage.
À Legends.
Oui.
De Ridley Scott où
on retire les
cornes des.
Oui, 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 ça fait. Enfin, voilà. Oui. On est. Oui, ça évoque bien l'imaginaire.
Voilà. Donc, voilà. Maintenant, l'idée, et c'est là où en fait, on peut dire que l'affiche ou non fait son travail, c'est quand vous la regardez, est-ce que votre propre imaginaire embraye et part voler dans ce pays, est-ce que vous faites partie des gens qui sont eux-mêmes sur la falaise à regarder ce qui se passe quoi.
Oui. Oui, donc finalement, le travail de l'illustrateur aussi, c'est de donner aux lecteurs ou enfin aux gens qui vont regarder, offrir des choses qui vont permettre de multiples interprétations et
absolument.
Qui vont permettre à l'imaginaire de celui qui voit de s'accrocher en divers points de l'image et de voyager et chacun l'apercevra différemment.
Absolument, oui, oui. Parce qu'il y a des images qui sont sur le regard de la fille, ce serait très intéressant
oui.
de questionner chaque personne qui passe et de demander ce qu'ils y voient. Il y en a qui vont y voir un malaise terrible, d'autres ils vont y trouver une chaleur ou je ne sais pas. Et multiples interprétations. Hein. Une affiche a une infinité de messages. Et je dirais même qu'il y a des messages que j'ai pas mis et qui existe dans la tête de certaines personnes parce que eux ils trouvent que le motif là leur évoque
donc finalement il faut arriver à faire une représentation visuelle qui soit pas trop évidente et qui ne soit pas trop voilà j'ai mis ça c'est comme ça
non il y a toujours une part d'interprétation on D'accord. peut pas imposer une idée aux gens disons que moi je m'impose mon idée parce que j'en ai besoin pour construire l'image. Mais je sais très bien qu'elle va être interprétée de autant de façons qu'il y aura de regard. Hein. Chacun y voit... mais c'est ça l'imaginaire. C'est
oui,
que justement, chaque esprit va développer son propre imaginaire. Moins on en dit, plus on en dit presque, j'ai
Tout
envie de
fait.
Dire. Mais bon, on dit déjà pas mal quand même. Là.
Oui. Oui, là, il y a quand même cette contrainte d'annoncer le festival et il y a quand même beaucoup de choses.
Dans les contraintes, justement, quand je dis on en dit pas mal, bon, il y a des. Si on regarde l'affiche, on peut se promener du regard et on voit
des
petites anecdotes. Donc, ça peut être les drapeaux.
Oui.
Ça peut être un petit public. Il y a un petit public, là, un petit groupe de gens qui descend du pont.
Oui.
Il y a donc là, il y a cet animal qu'on suppose prêt à s'envoler. On a écho ici en premier plan de cette fille qui nous regarde aussi elle-même avant de s'envoler. On a donc cette statue, on a le château, on a des tas de petits trucs qui peuvent donc s'intégrer physiquement dans des programmes, dans des tickets, et donc ça fait partie des contraintes hein, de la demande.
D'accord.
C'est-à-dire, faut semer des petits ingrédients un peu partout qui vont être réutilisés dans la communication des imaginales.
D'accord.
Qu'est-ce qu'il y avait encore comme contraintes donc
il y avait le château, il y avait.
Moi, je crois qu'on a à peu près tout dit.
Je crois qu'on a fait le tour.
Ouais. Oui.
Je ne sais plus quelles sont les autres, mais je crois que c'est tout. Dans la manière, justement, là encore une fois, c'est le travail technique en fait de l'illustrateur s'appuie bien évidemment sur déjà on fait ce qu'on peut avec les techniques qu'on a puisque chaque technique offre ses limites. Il y a des choses qu'on peut pas faire en aquarelle, il y a des choses qu'on peut pas faire en huile, etc., etc. Mais il y a aussi un autre aspect qui m'intéresse moi, c'est comment on couche le dessin sur le papier. Il y a aussi des choses qui sont un peu du domaine de l'inconscient et qui sont du domaine de règles inconscientes. Je vois par exemple ici le personnage. Il est dans le coin en bas à gauche, le regard tourné vers la droite et même on sent un axe montant de l'image. Or, dans le peu de choses que j'ai appris, moi, dans le peu de choses que je sais du graphisme et de l'interprétation, en principe, on dit toujours que la gauche, c'est le passé, la droite, c'est l'avenir. En publicité, il faut toujours que ce soit montant et non pas descendant. Donc, est-ce qu'un illustrateur, lui aussi, intègre des choses comme ça dans son travail? Est-ce que vous, quand vous placez vos personnages, est-ce que vous avez aussi ces raisonnements-là par rapport à des espèces de règles non écrites, mais qui vont psychologiquement toucher les gens?
Oui, complètement. Y a toute une alchimie de règles comme ça, je dirais même. Y a plein de choses. Donc moi, évidemment, je pars de la gauche vers la droite, parce que sinon, on va avoir une lecture qui part en sens inverse.
On part vers le passé, voilà, alors que là, on est tourné vers l'avenir.
Voilà, donc là, j'ouvre l'espace devant. On peut se projeter, l'animal peut se projeter.
Oui.
Ce qui serait intéressant, d'ailleurs, c'est de montrer l'affiche en lumière pour la voir inversée ou dans un miroir. Oui. Et on verra qu'elle fonctionne moins bien, déjà.
Oui,
parce que il va à contresens.
Oui.
Maintenant, il y a un parti pris de charger plus le côté gauche que le côté droit. Mmh. C'est aussi pour créer un déséquilibre dans l'image. Mmh. Alors, un déséquilibre, en l'occurrence, qui est voulu parce que je veux qu'il y ait cette notion de
mouvement.
De projeter.
De projeter, oui.
De projeter dans le vide.
Oui, aussi, oui.
Voilà, on se projette. Hein, l'imaginaire, c'est une projection spirituelle, presque. Donc, pareil, ici, on peut avoir ce soleil qui, lui... Alors, moi, je considère que la zone du ciel, c'est justement l'imaginaire. Là, c'est l'invitation. Hein, on va dire que c'est la stimulation, tous ces ingrédients-là. Je stimule l'œil du spectateur. Et puis, après, je l'invite à voler, hein, littéralement, à voler dans son propre imaginaire. Mmh. Et pour ça, j'utilise donc une pile, là...
Oui.
Qui est un soleil qui porte un peu cet imaginaire-là. Alors, ça peut paraître abstrait pour certaines personnes, mais il y a en effet un effet porteur dû au soleil. Hein. Mmh. On est rassuré, il fait bon, c'est chaud, et surtout cette lumière qui vibre un peu dans l'œil et qui stimule un peu l'imaginaire. Et puis, donc, si on voit, là, on n'a pas l'intégrale, mais sur l'intégrale du visuel, en face, on a un relief. Alors déjà, il faut savoir aussi qu'au niveau de l'horizon, on part très loin, hein, on va très loin.
Oui.
Et en face, on a une espèce de falaise qui elle-même qui est complètement d'un autre monde et qui nous suggère que le délire, j'ai envie de dire, continue, hein, pour celui qui veut. Hein.
Là, il y a une version un peu plus grande sur ce programme-là.
Oui, mais non, on ne l'a pas.
Donc, on ne l'a pas encore. Oui, oui, oui. Pour dire, tiens, les éléments du visuel qui ont été repris, donc là, on a effectivement le château qui est repris, qui est décliné.
Voilà.
Là, on a effectivement une autre partie de visuel, donc on utilise l'animal. Là, dans celle-ci, on voit effectivement que les animaux sont volants. Hein, les fameux rhinocéros,
voilà.
Puisqu'il y a dans le ciel qui...
Voilà, il y a eu un heureux hasard dans le processus de l'affiche. C'est par rapport au ballon que j'ai mis, moi, en pure innocence. Et il se trouve que pendant les imaginales, il y a aussi, ils appellent ça les montgolfières, je crois.
Oui, quelque chose comme ça, les
montgolfières. Donc c'est quelque chose qui tourne évidemment au niveau de ballons dirigeables. Je crois que ça se fait à la sortie de la ville.
Ouais.
Donc ça, c'était un heureux hasard.
Combien de temps on met pour réaliser une affiche de ce genre?
Alors ça, c'est une question... Alors celle-ci, elle m'a pris un certain temps quand même, mais ça m'est arrivé de faire des choses très vite, qui sont tombées presque naturellement, où je me suis posé très peu de questions. Et alors très vite, en illustration, ça veut dire... Alors ça dépend qui on est. Il y a des gens qui font une illustration à une heure, il y en a d'autres qui vont mettre un mois.
Enfin, le cas une heure est quand même plus rare, hein, d'après ce que j'ai pu
un mois entendre. Aussi.
Vous voyez, un mois aussi, oui. Ça se compte en plus que ça.
Moi, personnellement, une illustration pour une couverture, mon record, ça serait deux jours et demi. Pour une illustration digne de ce nom. Hein. Et puis, par contre, des illustrations, donc celle-ci que j'ai particulièrement soignée pour l'affiche, parce que fallait la soigner. Il y a eu une première ébauche, comme je disais, qui a été Donc elle fait partie du processus malgré tout, hein, elle est là, donc elle a été mise de côté. Et puis après, il y a eu pendant quelques jours plein de petites esquisses. Quand je dis plein, facilement, au moins une douzaine d'esquisses qui ont été en espérant dans le processus de recherche qu'il y ait ce petit déclic dont je parle, quoi. Et puis à un moment, il y a eu un déclic, je ne sais même plus où exactement, mais elle faisait partie de ces nombreuses ébauches. Et d'un seul coup, je dis, mais tiens, là, il y a quelque chose. Et j'ai poussé un peu, et donc j'ai proposé, et ça a l'air bon, ça, ils ont l'air de dire, on va voir, quoi. Et puis voilà, ça l'a fait. Alors, concrètement, à partir du moment où j'ai mis la réalisation en chemin, on peut dire que j'ai quand même bien passé une semaine. Il y a une semaine de travail, à savoir, entre le dessin, les couleurs et tout. Particulièrement sur celle-là, hein, parce que je voulais rien négliger. En termes de dessin et de couleurs, on peut dire que chaque chose a été... mûrement réfléchi et choisi.
Et quelles sont vos influences puisque je suppose que comme tout illustrateur, quand vous étiez jeune, vous êtes peut-être un peu alimenté chez d'autres, ou vous avez regardé, ou vous avez admiré. Et souvent, d'ailleurs, après, on peut ressentir des influences, même si après, on s'en défait. Mais on a souvent des gens qu'on admire et qui sont un petit peu des références pour nous.
Oui, complètement. Disons que je dirais que c'est même inévitable. Si on se lance dans le métier, c'est parce qu'on a été nous-mêmes fascinés par des œuvres graphiques. Il n'y a qu'après qu'on réalise, ceci dit. C'est pas au moment où on les rencontre qu'on se dit « ça y est, je vais être dessinateur ». On baigne dedans, on les voit, et petit à petit, on réalise que « mais c'est génial, c'est ce que je veux faire ». Donc oui, alors moi, je suis d'une génération qui a avalé... goulûment de la bande dessinée. Donc pour citer mes maîtres de l'époque, c'était quoi ? Uderzo avec Astérix, les Hergé m'ont passionné, les Rahan m'ont passionné, les Franquin, qui est une référence absolue pour moi. Donc j'ai grandi avec ça, donc c'est très bande dessinée à la base. Puis bon, chemin faisant, j'ai ouvert les yeux sur l'illustration. Là, ça serait plus une illustration anglo-saxonne, à savoir des gens comme Frank Frazetta, qui est décédé il y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai eu des gens comme Roger Dean, qui est toujours de ce monde, qui fait toujours des belles choses d'ailleurs. Donc Roger Dean, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de pochettes de disques à l'époque des années 70-80. Il y a Jeffrey Jones, que j'aime beaucoup, un illustrateur américain encore. Il y a Sue Mac, qui a fait une affiche pour les Imaginales, dont j'aime bien beaucoup le travail.
C'était la première ou la deuxième édition, me semble-t-il.
Je ne sais pas exactement, mais bon, il y a quelques années, en effet. Donc, il fait partie des gens qui m'ont donné envie. C'est toujours pareil, il y a un chemin. Hein, c'est-à-dire qu'une influence, elle est pas statique, elle évolue avec vous. C'est-à-dire que chemin faisant, vous découvrez des nouveaux artistes. Et puis ils ont une influence. Plus tard, il y a eu Loisel qui est arrivé avec sa quête de l'oiseau du temps, qui a été aussi une véritable révélation pour moi. J'ai été fouillé par la suite vers les auteurs américains, puisque visiblement j'avais une admiration vers les illustrateurs américains, Norman Rockwell, N.C. Wyeth. Il y a toute une mixture qui se met en place, où on prend ceci, cela, parce que lui, j'aime ses matières, lui, j'aime son trait, lui, j'aime son univers, on prend ce qui nous parle, on essaye de remélanger tout ça et de l'idéaliser à notre façon, quoi. Et puis avec ce qu'on peut faire, avec le talent qu'on a, parce qu'on est ce qu'on est aussi, c'est-à-dire on a plus ou moins de talent. Donc c'est notre manière de gérer tous ces ingrédients-là qui fait ce qu'on est au bout du compte. Il y a des gens qui peuvent beaucoup, mais qui ont peu d'idées. Il y a des gens qui ont beaucoup d'idées et qui ne peuvent pas grand-chose. Et dans les deux cas, on a des réussites. Simplement, ils ont trouvé une formule qui leur est adaptée. Et voilà, ils arrivent à faire leur chemin avec ça.
Alors, dernière question de cet entretien, puisque le temps passe.
Le temps passe.
Donc, quels sont vos projets ? Donc, il y a le projet de la BD, apparemment, donc, sur lequel
donc,
vous êtes en train de travailler.
Donc, en effet, une bande dessinée. Alors, la bande dessinée, c'est un travail colossal. Je crois que tous les auteurs qui font de la bande dessinée de manière très sérieuse, ils seront tous d'accord. Il y a garder un pied dans le cinéma d'animation. C'est une aventure à chaque fois qui est toujours très, très enrichissante, amusante. Continuer à illustrer des couvertures de livres, ça c'est un peu le petit gâteau qui tombe de temps en temps, puisque c'est un investissement de quelques jours et on se fait plaisir. Et puis éventuellement repeindre toujours. En fait, il me faudrait une quinzaine de vies, quoi, si je voulais tout faire. Mais bon, il faut faire avec ce qui s'offre à nous. Et voilà, quoi. Donc, j'espère faire cette bande dessinée.
Uniquement en illustration ou également en tant que scénariste ?
En tant que scénariste. Je suis un gros égoïste. Je ne partage pas.
Ouais. Donc ça, c'est encore une autre forme de travail, ça.
Oui, alors, on peut aussi... Il y a une parenthèse à faire sur le livre La Marche des Géants. Donc, c'est aussi...
Oui, justement, je voulais en parler de celui-ci.
Voilà, donc ça, c'est marrant aussi un peu dans la genèse de ce projet-là, parce que à l'époque où je peignais pour me faire plaisir, ce qui est toujours le cas de toute façon, mais disons où j'avais pas de contact professionnel pour l'illustration, j'ai fait une toile qui est visible à l'heure actuelle à la maison du Bailly, qui représente une vieille entrée de parc. Et qui donc très dans l'esprit imaginaire, c'est-à-dire que quand on la regarde déjà, on rentre et on s'imagine des choses. Et donc moi, étant mon premier public, en regardant la toile, je me suis projeté et ça m'intéressait de savoir ce qui se passait à l'intérieur de ce parc. Et donc j'ai pris mon crayon et j'ai commencé à écrire. Donc c'était totalement nouveau pour moi. Ça a mis du temps. Hein. J'ai retravaillé, on peut dire que je l'ai pétri mon texte, vraiment. Et une fois qu'il était là, j'ai illustré. Alors, c'était facile puisque, évidemment, toutes les images étaient présentes déjà dans la tête, même s'il a fallu quand même se bagarrer parce que rien n'est jamais tout cuit. Finalement, un éditeur a trouvé le projet séduisant et l'a publié. Donc, ça, c'est une belle aventure aussi. Vraiment, donc écriture, illustration.
Oui, c'est paru aux éditions Anna Chanel. Donc c'est l'histoire, ça, en fait, d'un petit garçon qui doit retrouver son ami, qui s'aventure dans un parc et qui doit surmonter sa peur.
Alors en fait, c'est un petit garçon, voilà. Alors j'ai pris l'enfance, parce que l'enfance, c'est vrai, quand on regarde les enfants, on peut tout de suite les embringuer dans un délire, quel qu'il soit. L'enfant a une capacité de partir dans l'imaginaire qui est beaucoup plus forte qu'un adulte. Et donc je suis parti sur ce principe-là. Et donc on a un petit enfant qui joue avec sa peluche. D'ailleurs, c'est pas sa peluche, c'est son ami. Et à un moment, il égare sa peluche. Et là, commence à se mettre en place dans la tête de l'enfant toute une histoire à bracadabrante. Parce que sa peluche est partie dans sa tête, elle l'a quittée, puisque c'était évident, elle était là, elle est plus là. Donc c'est qu'elle est partie. Et donc, chemin faisant, il commence à rencontrer parce qu'il part à sa quête, bien entendu. Chemin faisant, il rencontre des gens, et nous-mêmes, en tant que lecteurs, on commence à se poser la question, mais est-ce que ces gens existent vraiment ou ils sont réels? Ou imaginaires, je veux dire. Et plus on avance dans l'histoire, plus on s'aperçoit que les choses se décollent de la réalité. Et on part petit à petit vers un monde qui est totalement imaginaire, mais on sent pas de frontières. C'est-à-dire qu'on part doucement dans ce monde qui devient totalement imaginaire. Je vous raconte pas la fin.
Non. J'incite le public à se procurer l'ouvrage et à aller le voir. Donc la BD, finalement beaucoup de choses encore assez variées.
Plein de choses. Toujours difficile de vraiment établir les choses à l'avance, mais disons des projets de bande dessinée, beaucoup d'illustrations si possible, et encore beaucoup de films, d'animations. Voilà.
On va dire que
ça sera ça. Et puis pourquoi pas encore aussi de la peinture, mais ça, je pense que c'est plus du domaine de la retraite, si jamais il y en a une.
Enfin, en tout cas, on espère revoir de nombreuses illustrations et éventuellement des BD et des choses scénarisées, peut-être aussi des artbooks.
Peut-être quelque chose d'assez,
c'est aussi une autre façon de raconter une histoire et de mêler le texte et l'image.
Voilà, il n'y a pas de projet pour le moment, mais ça peut arriver. Mais oui.
Voilà. Ben en tout cas, on espère vous revoir souvent sur nos murs et sur nos couvertures et autres. Et merci beaucoup pour nous avoir consacré ce petit moment. Le temps qui nous était imparti donc est venu à terme. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc je vous incite très 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 vivement à aller à la maison du Bailly, visiter l'exposition qui est absolument superbe. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
C'est quelque chose.